I text lethu la namhlanje silthola ku Jeremia isahluku sesithathu.
Notre texte ce matin on le trouve dans Jérémie chapitre 3 au partir du verset 12 au verset 14. Donc nous allons par contre commencer au verset 11. 3. L'Éternel me dit: l'infidèle Israël paraît innocente. En comparaison de la perfide Juda, va crier ses paroles vers le septentrion et dit: reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Prions encore. Seigneur, nous te prions afin que tu envoies ton Saint-Esprit et qu'il nous parle au travers, et que tu nous parles au travers de ta parole par ton esprit. Touche chaque cœur et que personne ne parte ici sans avoir entendu ta parole. Amen. Il n'y a pas de vie dans ce monde sans Dieu, sans Jésus. Vous n'avez rien, vous êtes perdu pour toute l'éternité, pour toujours. Vous pouvez avoir tout ce que le monde peut offrir. Bien que vous ayez, mais avec tout ça, vous êtes pauvre, vous êtes malheureux et sur le chemin de l'enfer. L'accomplissement et la foi. Croire en Zulu, ça veut dire je suis satisfait, je suis comblé. Ça veut dire que quand vous prenez un repas et qu'on vous offre encore un peu plus, vous direz que non, je suis satisfait, je suis comblé, je suis croyant, donc j'en ai eu suffisamment. C'est vraiment une manière merveilleuse de le dire, dire que je suis chrétien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de rien d'autre, je suis entièrement comblé. Si nous avons Jésus, on n'a pas besoin de richesse, on n'a pas besoin de position ou de poste ou le plaisir du monde. Parce que Jésus devient votre vie et si vous l'avez, vous avez tout. Quand on parle de la vie, à travers toute la Bible, Jésus est dépeint comme... Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de ceux qui sont vivants parce que il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas aussi comme l'esprit des morts parce que lui, il est assis à la droite de Dieu, du Dieu le Père. Il n'est pas aussi comme une idole qui a été façonnée à partir d'un bois. Il est vivant, il n'est pas une idole fait d'un bois mort ou de la pierre. Il n'est pas une idole, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Et il vous aime d'un amour éternel. Dans Apocalypse 22, au verset 17. Et l'esprit et l'épouse... Non, il dit, viens, et que celui qui entend dise, viens, c'est ça? Viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, vous n'avez pas besoin de payer. Vous pouvez venir... Et Dieu accepte chaque personne qui s'approche de lui et qui vient vers lui. Jean a dit que Jésus est venu pour nous apporter la vie éternelle. Il dit, le voleur vient pour détruire et pour tuer. Dit, moi je suis venu vous apporter la vie en abondance. Une vie en abondance. Une vie en abondance qui déborde. Jésus ne nous donne pas un tout petit peu de la vie ou un peu de sa vie, mais nous donne la vie en abondance. Sans Jésus, vous n'avez pas cela, vous n'avez pas cette vie. Mais à travers Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est trois et il est aussi un. La Trinité est un. Dans la parole de Dieu est venue à Jérémie et lui donna l'ordre d'aller parler à Israël. Et dis-leur que moi, l'Éternel, je pense à eux. Et je me rappelle d'eux et de leur enfance. Et rappelle là aussi de leur premier amour. Quand tu me suivais dans le désert, et là, à cet endroit, la nourriture ne poussait même pas, parce qu'Israël était saint pour le Seigneur. Être saint, ça veut dire séparé, mis de côté pour lui seul. Qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu dit que je me rappelle, je me souviens de vous? Il se rappelle en ce temps-là quand votre premier amour brûlait encore dedans de vous, ce premier amour. Quand ce premier amour était ardent dans votre cœur, vous n'étiez pas intéressé à rien d'autre. Il était le seul intérêt de votre vie. Pendant que vous étiez encore jeune de cœur dans votre esprit. Vous étiez comme son épouse, élue votre époux. Chaque jour, il était la première chose dans votre pensée. Vous pensiez toujours à lui. Jésus lui-même était votre joie. Et même quand vous le suiviez, même dans le désert, là où il n'y a pas de nourriture, avant de connaître le Seigneur Jésus, nous sommes dans un désert spirituel où il n'y a rien. Et il dit, là où je vous ai trouvé, vous m'aviez fait confiance. Vous m'aviez fait confiance, vous m'aviez suivi et je vous ai protégé de tout mal. Parce que vous étiez mis de côté, consacré pour moi. Vous étiez un peuple saint. Je vous ai choisi. Parmi plusieurs nations, c'est vous que j'ai choisi. J'ai détruit vos ennemis devant vous. Et il a dit, oh, comment je me rappelle de vous. Oh, je pense à vous. Mettez votre nom là où, à l'endroit où Dieu dit, oh, combien je pense à vous pour que vous ayez encore ce premier amour. Il dit, mon peuple a péché doublement. Ils m'ont oublié la source d'eau vive. Et ensuite, ils se sont creusés des citernes qui ne peuvent pas retenir ou garder de l'eau. Ils sont comme un récipient
qui est percée et qui laisse passer de l'eau.
Mais la fontaine, la source, c'est pas pareil parce que l'eau ne cesse de jaillir. Et cette source, cette fontaine avait une eau très précieuse. C'est de l'eau vive. C'est l'eau la plus précieuse et la plus fraîche. Elle est aussi pure. Et ce qui est merveilleux avec cette source, c'est qu'elle ne tarit jamais. Mais Israël a abandonné cette source d'eau pure. Ils ont abandonné cette source d'eau pure et il leur a dit, vous avez péché doublement. Vous m'avez abandonné. Vous êtes détourné de moi. Vous avez tourné vos dos à Dieu. Je leur ai donné la vie. Je leur ai donné la source de vie. Et le deuxième péché est que ils se sont fait eux-mêmes leurs idoles. Ils ont commis l'idolâtrie. Au lieu d'aller à la fontaine, à la source de la vraie vie, chaque jour, ils se sont créés, ils se sont fait eux-mêmes leurs choses. Mais les citernes qu'ils avaient créées pour eux-mêmes coulaient. Et leurs idoles étaient sans importance, sans valeur. C'était des citernes crevassées et qui étaient inutiles. C'était vraiment une perte de temps avec ces idoles. Et cela les avait laissés dans une situation triste et une situation de péché. Donc vous avez perdu votre temps avec des idoles sans vie, sans valeur. Mais Dieu n'est pas content quand vous faites cela parce qu'il nous considère comme son épouse. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous suivions après d'autres idoles ou d'autres dieux. Paul a dit que je veux vous présenter à Christ comme une épouse pure. Vous pouvez imaginer ce qu'on peut ressentir quand ce que le mari ressent quand sa femme n'est pas fidèle à lui, quand elle a d'autres hommes dans sa vie.
Dans Jérémie chapitre 2 au verset 4, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Et vous toutes, famille de la maison d'Israël.
Il les reproche de l'avoir abandonné le vrai Dieu. Et ils ont suivi les idoles. Vous pouvez avoir le premier amour et commencer à le perdre. Et petit à petit, peu à peu, vous commencez à vous retirer de Dieu et vous commencez à servir vos idoles que vous-même vous avez faites. Dieu a dit, je vous ai sauvé, je vous ai amené dans une terre où il y a de la nourriture en abondance. Pour que vous puissiez manger le meilleur fruit. Mais quand vous êtes entré dans la terre, dans ce pays, dans mon pays, vous l'avez souillé et l'endroit est devenu une malédiction. Donc, prédicateur, pasteur, ils ont dit, où est le Dieu que nous avons servi dès le commencement? Et même les membres de l'Assemblée, ils m'ont tous abandonné. Ils m'ont abandonné, ils ont prophétisé ensuite
au nom de Baal et ils ont suivi des choses qui ne leur profitaient en rien. Et Dieu a dit, quelle injustice j'ai fait pour que vous m'abandonniez. Où est-ce que je vous ai blessé? Où est-ce que j'ai péché pour que vous m'abandonniez? Pourquoi vous m'abandonnez aussi vite? Pourquoi vous avez fait tant de mal, péché contre moi? Avez-vous oublié ce que j'ai fait pour vous et vos pères pour que vous m'abandonniez? Maintenant, vous êtes en train de suivre d'autres dieux. Je voudrais que nous saisissions, nous comprenions ce point. Les gens ont expérimenté le jugement de Dieu tombé sur eux. Mais quand les gens se sont repentis, Dieu s'est repenti, il s'est détourné de sa colère. Si nous abandonnons Dieu, nous commençons à servir d'autres dieux. Peut-être vous dites que je ne sers pas des dieux étrangers, je ne sers pas des idoles. Mais peut-être c'est votre argent qui est votre idole. Peut-être c'est le sport ou votre télévision, votre internet, votre voiture et le péché sexuel. L'idolâtrie et l'infidélité dans le mariage. Vous avez un mari et vous avez d'autres hommes dans votre vie. Peu importe ce que c'est dans votre vie, que vous adorez, cela est devenu votre idole, alors que Dieu doit être premier dans votre vie. Dieu vous veut. Il veut de vous tout entièrement. Il ne veut pas de vous à moitié. Dieu veut tout ou rien. Donc Dieu veut votre tout. Et nous chantons que même pas un tout petit peu que je vais retenir. Il veut tout. Il veut une consécration entière. Jésus a dit, si vous aimez père, mère, frère et sœur, enfant ou femme, vous n'êtes pas digne de moi. Vous voyez, même eux, ils peuvent aussi devenir vos idoles. Dieu a envoyé Jérémie vers ceux qui avaient abandonné leur premier amour. Et pour les avertir, afin que la colère de Dieu ne tombe pas sur eux, pour leur dire qu'ils doivent se repentir, pour que Dieu ne laisse pas sa colère tomber sur eux. Il dit, parce que je suis marié à vous, pensez pas à cela, Dieu dit qu'il vous a marié, il est marié à vous. Êtes-vous conscient de cela chaque jour, chaque heure, chaque moment que vous êtes marié à Dieu? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas imaginer que lui qui nous a mariés, que vous le vouliez ou pas, Dieu vous a marié. Que vous le vouliez ou pas. Vous êtes marié à lui, vous devez lui être fidèle. Si vous ne l'êtes pas, vous vivez dans l'adultère. Dieu dit, je suis marié à vous. Est-ce que vous êtes tout à fait conscient de cela, jour après jour, moment après moment? Vous êtes marié. Vous ne l'aviez pas marié, c'est lui qui vous a épousé. La Bible dit, dans Hébreux 7, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu dit, je me suis marié à toi, vous êtes son épouse. Quel genre d'épouse êtes-vous? Que direz-vous d'une épouse qui est mariée à son mari et elle a d'autres hommes dans sa vie, elle est infidèle à son mari? Que direz-vous de cette épouse? Et la parole dit ici que le mariage soit honoré de tous. Et vous, vous devez aussi honorer votre mariage avec Christ.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de tout ce que vous avez, car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien.
Et nous pouvons simplement accepter son aide. Nous n'avons besoin de rien et nous n'avons besoin de crainte de rien.
Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme?
Donc nous pouvons dire que si Dieu est notre époux, tout ce qui nous touche, touche la prunelle de son œil.
Et nous lisons dans James 4, dans Jacques chapitre 4, verset 4. Dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous êtes amoureux de l'argent et du monde.
Ça peut être aussi vos enfants. Et Dieu vous catégorie, vous classe selon les adultères,
ou parmi les adultères. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
Si vous avez abandonné Dieu et vous avez abandonné ce premier amour, malheur à vous si vous ne vous repentez pas. Il y avait un jeune homme ici, assis à Bantou. Il souffrait de l'épilepsie et de manière sérieuse. Et il s'est repenti. On avait prié pour lui et il a été guéri. Il était parfaitement guéri. Mais un jour, nous sommes allés à un autre endroit pour prêcher. Et quand nous sommes revenus, et on nous a dit que ce jeune homme, il a rétrogradé, et voilà que sa maladie est revenue. Après que nous sommes partis, il est parti chez les voisins ici, il allait boire l'alcool avec eux, et il est tombé, et il était inconscient, et il ne s'est plus relevé. Et c'est ainsi qu'il est mort. Et un autre jeune homme est venu ici. Il est venu d'Allemagne. Il était d'une famille aisée. Et il est tombé dans la drogue. Il s'est livré dans la drogue. Le père a dit, mon fils, à cause de ta manière de vivre, tu vas perdre ton héritage. Et c'était des millions en euros. Il est venu ici, il a rencontré le Seigneur et le Seigneur l'a délivré, le Seigneur l'a rendu libre, libre complètement. Et quelques mois après, il est rentré chez lui. Et il a vécu pour le Seigneur. Sa vie avait complètement changé. Et son père a dit, je retire ce que j'avais dit. Et chaque dimanche, il était à l'église. Mais un jour, il n'était pas au culte. Ils ont contacté ses parents. On a contacté ses parents et les parents ont dit, mais ce matin, il est parti de la maison. Il était bien habillé pour aller à l'église. Et les autres ont dit, non, on a regardé, on l'a cherché, on ne le trouvait pas et on l'a retrouvé dans un parc. Il était couché sur un banc. Au lieu d'aller à l'église, sur son chemin pour l'église, il a été détourné, il a pris encore sa drogue, l'héroïne, et il a pris une overdose. Et c'est comme ça qu'il s'est allongé sur le banc et c'est comme ça qu'on l'a trouvé mort. C'est une chose vraiment effrayante d'abandonner Dieu parce que vous abandonnez la vie. Il est devenu un adultère. Il a abandonné son Père Céleste et il s'est lié, marié au diable. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que Dieu dit, malgré tout cela, je t'aime encore. Je me rappelle quand j'étais en Mpumalanga, quand Dieu m'a appelé. Je suis allé chez mon pasteur, je lui ai dit que Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Et quand j'étais là-bas, j'ai commencé à penser aux conséquences de la décision. Si je deviens pasteur, je n'aurai rien, je n'aurai pas d'argent. Je serai simplement là pour baptiser les enfants et marier les jeunes personnes. Je dis plutôt, je vais trouver un emploi et gagner suffisamment d'argent pour supporter ou soutenir les prédicateurs. J'ai pris la décision que moi-même, je ne deviendrai pas pasteur ou prédicateur, je vais simplement les soutenir. Et ensuite, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux pas prendre ces décisions sans toi, je veux que toi-même, tu me donnes ton sceau. Tu me donnes ta permission. Je veux que toi-même, tu me conduises dans cette affaire. Seigneur, je lui ai dit, je veux pas le faire sans toi. Je veux que toi, tu sois avec moi. J'ai dit, Seigneur, je te demande s'il te plaît. J'ai pris la décision. J'ai dit que tu me donnes la bénédiction sur la décision que j'ai prise. J'ai pris ma Bible et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles à travers ta parole. Je veux que tu me donnes, que tu apposes ton sceau et ta bénédiction sur ma décision. J'ai prié et j'ai demandé au Seigneur sa bénédiction. J'ai ouvert ma Bible. J'ai lu dans Matthieu 4, verset 18. J'ai lu à l'endroit où Pierre et André péchaient et il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et j'ai dit, non Seigneur, je ne peux pas faire ça. C'était en 1951. Je suis rentré à la maison, j'ai vécu dans la rébellion et l'année qui a suivi, j'étais à l'enfer pour moi. Et je savais que si je mourais, j'allais en enfer. Et pendant un an et demi, j'ai expérimenté ce que cela signifie de mener une vie sans Dieu. Je n'avais pas la paix. Je vivais dans la crainte. À chaque fois que j'entendais un petit bruit, je pensais que c'est Dieu qui était revenu et j'étais toujours inquiet. Et un jour, dans le désespoir, je me suis agenouillé et j'ai prié et j'ai lu dans ma Bible sur l'amour de Dieu. J'ai dit, Dieu, comment tu peux m'aimer alors que je vis dans la rébellion contre toi? Je te donne, je te montre mon coup de poing et malgré tout cela, Seigneur, tu m'aimes toujours. Quelques jours après, je me suis agenouillé sur mon lit à l'endroit où je dormais encore. Et j'ai ouvert ma Bible.
Et j'ai lu à l'endroit où Jésus dit,
quand Jésus a défié Pierre en lui disant, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit ça à Pierre une fois, deux fois, trois fois. Et quand j'ai lu cela, ce n'était pas comme si je lisais dans la Bible. C'était comme si Jésus lui-même se tenait devant moi et il me posait ces questions. Je ne connaissais pas le grec en ce moment-là. Bien que je ne connaissais pas la signification du mot grec de ce que Jésus demandait dans le mot amour en grec, je ne connaissais pas encore la signification. Mais la troisième fois quand Jésus me l'a demandé, mon cœur s'était mietté et j'ai commencé à pleurer. Dans le grec, si vous regardez ça, dans le grec, quand Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Il demandait à Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour de Dieu, d'un amour agapé? C'est l'amour de Dieu qui surpasse toute chose, qui peut vaincre toute chose. Pierre a répondu, il a dit, je te filéo, c'est l'amour qu'on a pour un ami. Et c'est pourquoi Jésus a insisté jusqu'à la troisième fois en lui disant, Pierre, tu m'aimes comme quelqu'un aime un ami. Pierre l'aimait comme un ami. Il n'a pas pu aimer Jésus avec l'amour de Dieu. S'il avait cet amour, il ne renierait pas Jésus comme il l'a fait. C'est ça? Pierre ne pouvait pas le dire qu'il aimait Jésus avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi parce qu'il savait qu'il a renié Jésus et il a dit « Je t'aime ». Comme un ami. Bien que je ne connaissais pas encore la signification grecque de ce mot, bien que je ne comprenais pas la signification profonde de cela, pour moi c'était un grand défi, simplement le fait que Dieu m'a demandé, m'aimes-tu plus que ces gens, ces poissons? Cela a déchiré mon cœur. Je me suis relevé de mes genoux, je me suis mis sur mes pieds, je suis allé voir ma maman. J'ai dit, maman, Dieu m'a appelé, je vais. De là, je suis allé chez mon papa qui était dehors. Je me disais que cela sera difficile pour mon papa de l'accepter. Et j'ai dit, mon père, je dois suivre le Seigneur, Dieu a confirmé son appel dans ma vie. Et mon père a dit, mon fils, va, j'aurai quelqu'un qui priera pour moi. Et je suis qui je suis aujourd'hui, parce que je dis, Seigneur, je suis prêt à tout abandonner et pour te suivre et pour te servir, pour faire ta volonté et devenir pécheur d'homme. Et je l'ai fait parce que il a dit que je suis marié à toi. Et j'ai dit, Seigneur, je suis d'accord, je vais être ton épouse. Pas parce que je l'ai aimé en premier. Non, c'est parce que lui m'a aimé en premier.
Et j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à te servir au-dessus de tout ce qui existe présentement, même dans le futur. Et aujourd'hui, je peux dire que je témoigne le fait d'être marié avec Dieu. Est-ce que vous avez cette alliance de mariage avec Dieu? Ne l'enlevez jamais de votre doigt. Et tomber amoureux du diable et des choses de ce monde. Et ce mariage avec Dieu, avec Christ, quand il vous a racheté, il est plus important que votre famille, que tout. Moi aussi, pareil, quand j'ai quitté ma famille, j'ai tout abandonné et je me suis marié à Christ. Dieu a dit, je suis marié à toi. Quelle est ta réponse? Tu diras que non, je ne veux pas me marier avec toi. Je suis marié au monde, au diable, à mes biens. Et si vous refusez d'être marié à Christ, à Dieu, alors votre sort, c'est l'enfer. Tout ce que vous pouvez imaginer, et cela sera pire que tout ce que vous pouvez imaginer, avoir le cancer et tout ce qui peut, toute maladie, l'enfer est pire que tout cela. Récemment, quand je rentrais de Durban, j'ai reçu un appel. On lui avait dit qu'il y avait un jeune homme qui travaillait ici à la laiterie. Et ce jeune homme-là, sa main s'était coincée quelque part dans une machine et elle s'est coupée. Et il s'est empressé d'aller là-bas. En ce temps-là, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as perdu ta main? Est-ce que c'était douloureux? Il a dit que c'était vraiment douloureux. Si j'avais un couteau avec moi, j'aurais dû commettre un suicide. Et tout ce que vous pouvez expérimenter ne peut pas être, on peut pas le comparer à vivre pour toujours, pour l'éternité dans l'enfer. Donc, enlever l'alliance du diable et porter l'alliance de Dieu. Prions, levons-nous et prions ensemble. Seigneur Jésus, nous apprenons que tu es marié avec nous. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas été fidèle. Et nous avons flirté avec d'autres hommes en oubliant ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur, travaille de manière merveilleuse par ta grâce. Et par ta grâce, que nous restions fidèles à ce mariage céleste pour l'éternité. Amen.